Ouais, c'est pas mal bon. Ça, mon invité vient de m'apprendre que c'est Bobby Burns qu'on entendait.
Bobby Bird.
Bird. Oui. Bon, alors, je vais l'écrire ici D et non N. Bonjour, Crazy Smooth.
Salut, salut.
On vous appelle aussi Yvon Crazy Smooth Soglo.
Ouais, mon vrai nom, c'est Yvon Soglo, mais okay. Mon nom d'artiste, Crazy Smooth.
Bon, alors, Crazy Smooth, ça vient d'où, ça?
C'est en fait un danseur légendaire à Montréal qui m'a donné mon nom quand j'ai commencé. Lui, son nom, c'est T-Swift. Puis, il m'a vu danser. Il m'a demandé c'est quoi mon nom, j'en avais pas. Puis il a dit, OK, je vais trouver un nom. Puis il a dit Crazy parce qu'il trouvait que je bougeais à une vitesse là, super rapide. Puis il a dit smooth parce qu'il disait que même si il pouvait pas voir si je faisais des erreurs parce que mes transitions étaient smooth, donc
ah,
crazy
oui.
Smooth. Pour moi, c'était un grand danseur qui me donnait un nom. Puis j'ai accepté.
Mais j'imagine que ça faisait votre affaire aussi. C'est flatteur quand même de se faire dire qu'on est crazy de la bonne manière et
ouais.
Smooth aussi de la bonne manière.
Ouais. Puis c'est ça, j'ai gardé le nom depuis. Puis si on me demande de décrire mon style, je pense que c'est les deux mots qui me décrivent le mieux.
Ouais. Autre question concernant, ben là, c'est Crazy Smooth, on comprend pourquoi. Bienvenue Crazy Smooth, vous êtes chorégraphe, vous êtes interprète, danseur, et on entend beaucoup parler de break plutôt que de break dance. Est-ce qu'il y a une différence ou vous avez décidé de faire tomber le mot dance?
Non, pas du tout. On parle des années 60, OK? Les années 60, la musique qui était populaire, c'était le soul qui faisait, il y avait un accent, un focus sur la mélodie. Puis les vocals. Puis, dans la transition aux années 70, on a vu ce qu'on appelle le GB Funk. Un funk, un type de musique où l'accent était mis sur les percussions. Très populaire, justement, ce que vous avez joué, Bobby Bird, James Brown. On va dire, OK, à 4, je compte à 4, tout le monde arrête, on donne un solo au drummer. 1, 2, 3, 4, pom, pom, pat, tom, tom, tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle dans une chanson le break. Donc, on retrouve ça dans plusieurs chansons.
Oui, okay.
Puis, aux États-Unis, dans le Bronx spécifiquement, les DJ voyaient qu'à chaque partie de break, il y a des gens dans les fêtes qui faisaient des mouvements qui étaient plus exubérants. Donc, table tournante, deux tables tournantes, le même disque deux fois, ils faisaient des loops avec le break, puis ce qui se faisait que...
Des boucles?
Oui, c'est-à-dire qu'ils loopaient le break dans le sens qu'ils jouaient la même partie de la chanson deux fois.
Okay.
Comme ça, ça faisait... Parce qu'un break dans une chanson, c'est court quand même.
Mm-hmm.
Fait que ça faisait en sorte que c'était plus long, fait que les danseurs pouvaient danser plus longtemps. Fait que c'est pour ça qu'on s'appelle des B-boy, des break-boy. Moi, c'est break-boy, B-boy, crazy smooth. Ou
ouais.
On va dire B-girl, une telle. Donc, puis le nom de la danse, c'est B-boying, B-girling. Aujourd'hui, on parle de... Pas spécifier les genres. Donc, on va souvent dire breaking. Mais breakdance, c'est un terme que les médias ont mis à ça à son apogée en 82-83, mais ça n'a jamais été le nom de la danse. Donc, on travaille fort pour que les gens appellent la danse de son vrai nom. Ouais.
Et on entend aussi street dance, danse de rue. Est-ce que c'est l'équivalent de break?
Street dance, c'est un terme qu'on va employer pour englober toutes les danses qui sont pas qui viennent de la communauté puis qui n'ont pas été historiquement institutionnalisées. Donc, quand on parle de locking, par exemple, à l'époque, on pouvait pas dire « je vais aller prendre un cours de locking ». Non, il fallait se rendre à une fête, il fallait se rendre à Soul Train pour voir les gens qui faisaient ça, puis mm-hmm. ou le voir à la télé, imiter un peu pour trouver. Il y avait pas de cours, tandis que...
C'est quoi du locking?
Du locking, je dirais que c'est la danse qui a grandi dans le temps du funk. Au début des années 70, c'est le street dance, en fait, je crois, qui était le plus populaire à l'époque. Le groupe Les Lockers, ils ont fait des performances jamais en arrière-scène. Ils faisaient des ouvertures pour Frank Sinatra, et etc. Donc, ils ont vraiment montré l'exemple pour les autres...
Danse de rue.
Ouais, les autres street dance. Comme le break, c'est un street dance. Le popping.
Ça englobe plein de styles de danse.
Ouais, plein de formes différentes.
D'accord, je comprends.
Ouais.
Et In My Body,
oui.
C'est le titre du spectacle.
Oui.
Pourquoi ça s'appelle In My Body?
Bon, c'est des réflexions que j'ai eues, moi, personnellement, dans ma carrière. Puis je me suis retrouvé à un moment où je regardais d'un côté, je voyais où je m'en vais. C'est-à-dire que je suis plus jeune, Puis je regarde.
Vous êtes plus jeune pourtant.
Oui, c'est peut-être. Mais
tout est relatif.
Tu vois, tout est effectivement, effectivement. Si tu parles à mes genoux, par exemple, il y a un kilométrage qui va dire que je suis pas si jeune que ça. Okay. Mais oui, justement, en regardant de l'autre côté, je vois aussi ma jeunesse. Sauf que je me retrouve à un moment dans ma vie où je peux faire la plupart des choses que je faisais quand j'étais dans ma vingtaine. Mais il y a des conséquences.
Quand c'était vraiment crazy.
C'est ça, exactement, exactement. Puis, mais il y a des conséquences. C'est-à-dire que le temps de récupération, etc. Puis, un artiste qui n'importe quelle personne qui travaille avec son corps, qui s'exprime avec son corps, ça fait en sorte que, veut pas, à un certain moment, mm-hmm. puis ça va être différent pour tout le monde, on va s'identifier face à ce qu'on peut faire ou ce qu'on fait. Donc, ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, quand on ne peut plus faire les choses ou on peut les faire pas avec la même performance, il y a un questionnement qui se...
Ça joue sur notre estime de soi?
Ça peut, c'est ça. Puis pour moi, j'ai mon expérience personnelle, mais en travaillant sur un spectacle, j'ai aussi vite réalisé que c'est la collection d'expériences de tout le monde qui m'intéressait parce que tout le monde a une perspective différente face à ça. Il y en a que c'est plus fataliste, puis c'est comme, si je suis pas capable de faire ce que je faisais, ça sert à rien. Il y en a que avec l'expérience et moins de capacité dans leurs plus vieux jours, ils dansent mieux. Il y a des jeunes qui sont plus blessés que des gens qui sont vieux. Donc, peu importe où on se retrouve sur l'échelle de temps, il y a une perspective. Puis j'ai la chance d'avoir avec moi 9 interprètes.
De tous âges.
C'est ça, qui représente toutes les générations. Donc c'est un moment quand même historique dans l'historique du street dance au Canada parce qu'on a deux interprètes qui font partie presque de la première génération de street dancers au Canada qui, par exemple, D. Casey qui a 58, dansait en 83. Quand moi je suis arrivé au Canada, j'avais 3 ans.
Et Casey danse toujours.
D. Casey, oui, il danse toujours. Il est dans le spectacle. Tash, qui a 52. On a Jason, Mark, Julie Rock, Miss Mary Monster, qui, eux, représentent la génération des plus jeunes, qui ont début vingtaine.
On commence à quel âge, habituellement?
Ça dépend. C'est une culture de jeunes, mais on peut commencer à 5 ans. Il y en a qui commencent très, très jeunes aujourd'hui. Mais historiquement, les gens qui ont créé ça, c'était des jeunes qui avaient en 12 et 15 ans. Là.
Ah oui?
Oui, aux États-Unis.
Mais ceux qu'on trouve sur la scène, habituellement, ils ont début vingtaine?
Ça va dépendre. Ça dépend vraiment. Mais pour notre spectacle, oui. On a vraiment...
Les 20, 30, 40, 50,
exactement.
Presque 60. Là.
Exactement.
Puis à quel âge, pas qu'on doit arrêter, mais habituellement, là, parce que 58 ans, est-ce que les danseurs de 58 ans disent, ben là, c'est pas mal mon dernier spectacle, ou dans leur tête, non?
Ils peuvent, mais il faut comprendre aussi que ça veut pas dire la même chose quand on dit arrêter. Là, tu parles spécifiquement de performer. Mm-hmm. Nous, on existe dans un monde déjà qui est à part du monde de la danse contemporaine, du monde sur la scène, on est dans des jams, donc techniquement, on ne va jamais arrêter de danser, sauf que là, on parle du regard des autres, on parle d'être sur la scène, puis que les gens nous regardent. Peut-être que ça, cette carrière peut finir à un certain âge.
Ah oui, mais... c'est le regard des autres qui peut décider sur...
Non, c'est-à-dire que... Pardon, je spécifiais. Quand je dis le regard des autres, c'est quand on est sur scène, là, on se met dans une position où les gens nous regardent.
Oui.
Donc,
on est en spectacle, en représentation.
Exactement. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui peut dire que, bon, là, j'ai 65 ans, ben ça, c'est fini la scène, ça... mais il va pas...
Ça devrait pas, si on aime ça, puis si on est
oui,
bon...
Oui, c'est ça, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va dire non. Moi, je danse jusqu'à à 85, là, puis tout ça. Donc, c'est vraiment individuel. Chacun va vraiment...
Et qu'est-ce que vous racontez à travers votre spectacle? Ça se déploie comment, là, avec... Ces danseurs de différentes générations,
oui.
Qu'est-ce qui se passe?
Ben, c'est ça ce qui a été intéressant dans la création. Quand j'ai créé, j'avais les thèmes, j'avais les débuts de chorégraphie, ce que je voulais faire physiquement. Mais tu sais, la trame narrative, c'était quelque chose qui était un peu plus difficile parce que le spectacle, le thème, il est universel, ça va. Mais ça aurait pu être Kitten très rapidement pour moi.
Mm-hmm.
Puis
Kitten, pourquoi?
Ben, in my body, j'ai mal. Tu sais, ça aurait pu... Ce que j'ai réalisé, puis ce qui est venu vraiment m'éclaircir, c'est que le personnage du spectacle, mm-hmm. c'est les interprètes. Donc, juste en étant eux-mêmes, l'histoire se raconte.
Se construit, se raconte.
Donc,
racont- okay.
donc la lentille que j'ai voulu que les spectateurs aient, c'est la mienne. C'est-à-dire, comme moi, j'arrive en répétition, puis je vois l'interaction qu'il y a en toutes ces générations-là, mais j'aimerais que le public puisse voir comment ça se passe, comment pour eux ça se passe, que ça soit super beau, les prouesses, etc., ou que ça soit un peu plus sombre ou comme les difficultés, exprimer un côté de la chose qui n'est pas souvent mis de l'avant chez nous parce que c'est une culture de jeunes.
De super-héros, super-héroïnes.
Exactement. Donc, ouais. pour moi, c'est comme si on regarde un film où on voit Superman, effectivement, mais aussi on voit l'histoire de Clark Kent. Souvent, les films, on va mettre l'accent sur le héros.
Le côté éblouissant,
exactement.
Et performatif.
Exactement. Okay. Donc on voit tout. Puis c'est sans être moralisateur. Tout le monde en fait son interprétation.
Ouais. C'est pas votre première chorégraphie,
non,
Crazy
non,
Smoot.
Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Ça fait là, depuis qu'on performe sur scène comme ça, ça fait depuis 2009, je dirais.
Vous êtes sur la scène aussi?
Oui, je suis un des interprètes aussi.
Est-ce que ça vous demande quand même encore plus d'efforts, là, parce que vous devez avoir un œil extérieur, mais vous
oui,
faites partie
oui,
aussi
mais
de la distribution?
Ce qui a été bien dans la création, ce qui a été bien dans... le déploiement de tout ça, c'est que j'ai été capable de réunir ce que moi j'appelle mon dream team artistique. Donc,
présentez-le-nous, votre dream team.
Bon, il y a l'écrivain Alejandro Rodriguez, que ça fait presque 10 ans que je travaille avec cet écrivain. Dramaturge Sophie Michaud. Assistante chorégraphe Saxon Fraser, qui est aussi directrice de répétition. J'ai travaillé avec Mirari, qui est l'équipe de multimédia avec laquelle on a travaillé, puis avec la technologie, ce qu'ils appellent le body mapping technology, mm-hmm. La projection sur notre corps. Chantal Labonté, qui est l'éclairagiste. Incroyable. Puis le compositeur Chachou, DJ Chachou, qui est DJ dans notre communauté, mais qui est aussi un grand compositeur de musique. Donc c'est vraiment, puis avec le support du Centre de création au Vertigo, de le Can Dance Network, le Fonds national de création, ils ont tous
Vous étiez
investi.
En résidence de création?
Oui, j'ai été en résidence pendant 2 ans, mais en plus de ça, il y a Banff qui nous a aidés, il y a Toronto, il y a beaucoup de gens qui ont investi là-dedans. Ce qui nous a donné pour un artiste le luxe, c'est d'avoir du temps.
Ouais.
D'avoir du temps pour créer, pour
c'est
faire des erreurs,
luxe.
puis tout ça, parce qu'on a l'habitude de la machine, il faut que ça roule, tu as un peu d'argent, tu répètes 2 mois, puis tu présentes un spectacle. Là, on a eu le temps, puis la pandémie aussi nous a ralenti, mm-hmm. fait que ça fait en sorte qu'on a vraiment mis la réflexion puis le temps pour créer ce spectacle.
Ce ne sera pas une première mondiale, In
non,
My Body.
Mais ça va être une première à Montréal.
À Montréal.
Au Québec.
Et puis, qu'est-ce qui a attiré mon attention aussi quand vous parliez de votre équipe? Vous avez parlé de quelqu'un, un écrivain et une femme de théâtre, quelqu'un qui est...
Une dramaturge. Oui.
Alors, je me dis, la danse et l'écriture, c'est quoi le lien?
Ben, en fait, c'est que chaque médium a sa force. Donc, les mots peuvent aller à des endroits où la danse... Le corps ne peut pas. Vice-versa, le corps va... Il y a une expérience viscérale. Quand on le regarde, on ressent des choses que les mots... Oui, on peut essayer de décrire, mais ça va pas le toucher comme on veut. Puis le multimédia, ça t'amène dans un univers imaginaire, tu sais, que tu peux pas nécessairement... Moi, je me disais, OK, mais comment je fais pour faire en sorte que... les spectateurs puissent voir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, c'est-à-dire sur la surface, beau mouvement, tout ça, mais il y a la Troisième Guerre mondiale là, qui se passe dans mes genoux là, pendant que ça se fait. Donc, pour chaque danseur, donc tu sais, c'est vraiment utiliser la force de chaque médium et l'expertise des gens qui sont derrière ça, qui viennent apporter leur expertise pour aider le propos de ma vision artistique et de ma chorégraphie. Donc, c'est ce threesome-là des médiums qui fait en sorte que on dose assez parce que c'est pas un spectacle de lumière, c'est pas un spectacle de multimédia, c'est pas une compétition de spoken word. Donc, il faut utiliser chaque médium que ça vienne aider le propos pour faire en sorte que le spectacle est complet. Puis je crois qu'on a bien réussi, là, vu le succès qu'on a jusqu'à présent.
Oui, même que vous avez gagné des prix.
Oui, on a gagné 4 Dora.
Bravo!
Donc oui, c'est... ça.
C'est remis par qui, ça?
C'est Ontarien, c'est une organisation à Toronto qui font les Dora Awards à chaque année.
Alors, le temps file. J'avais encore beaucoup de questions parce que vous êtes bien intéressant, très cher Crazy Smoot. C'est important pour vous de parler du vieillissement dans le milieu du break? Ou est-ce qu'on dit du break ou du
street dance en général? Pour moi, oui, je crois que la force d'un artiste, c'est quand on parle de quelque chose qu'on connaît, quelque chose qu'on vit, des réflexions qu'on a eues. Donc, pour moi, tous les spectacles, que ce soit qu'il y ait des propos politiques, activistes, peu importe, j'ai toujours parlé de ce qui se passait chez moi en ce moment-là. Pour moi, c'est quelque chose que je vis, puis c'est important parce que je trouve que de montrer tous les côtés, c'est important pour les gens. Puis c'est important pour les gens dans la communauté aussi parce que souvent, on se masque derrière nos prouesses et tout ça, mais il faut accepter aussi qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres aspects. Puis je pense que le spectacle monte tous les côtés.
Ouais. Il y a des masques, mais vous faites aussi tomber les masques.
Oui, exactement. Ouais. Puis ce spectacle monte tous les côtés de la chose. Puis en même temps, c'est pour moi, c'est la chance, c'est de donner la chance à un public qui aurait peut-être pas l'opportunité d'ouvrir la porte puis de rentrer dans une salle de répète ou rentrer dans un jam. Ils vont voir un peu ce qui se passe dans notre monde en voyant ce spectacle-là.
Vous êtes très convaincant. Vous êtes très convaincant.
Ah, ben...
In My Body au FTA, le Festival Transamérique, qui est présenté donc le 2 juin, c'est un vendredi, le 3 juin, c'est un samedi, le 4 juin, il y a différentes heures, c'est 19h vendredi-samedi et 15h le 4 juin. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous, Crazy Smoot, et je vous souhaite que du bon et bonne continuation dans tout.
Merci beaucoup.
Bon spectacle.
Peace.